Alors, on vous invite à tourner avec nous, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6. On continue notre série. Et tournez avec nous, ça va être plus facile à suivre. Simplement pour se remettre un petit peu dans le contexte, on a vu ensemble la semaine dernière que Jésus forme une nouvelle communauté. Dans le passage de la semaine dernière, il commençait par appeler Pierre, Jean-Jacques, vous vous rappelez? À ce moment-là, Lévi. Puis ce passage-là se terminait au chapitre 6, verset 13 à 16, lorsque Jésus nomme les 12 apôtres. Et ce qu'on est en train de voir à ce moment-là, c'est que Jésus forme une nouvelle communauté. Et de la même manière que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était le peuple de Dieu qui était là pour représenter Dieu, vivre les valeurs de Dieu, mais représenter Dieu sur la terre. De la même manière, Jésus, le Seigneur, comme on l'a vu la semaine dernière, celui qui a autorité même sur la loi, appelle un peuple, forme un peuple, une nouvelle communauté. Et dans le passage de ce matin, à travers un discours de Jésus, où il y a plusieurs parties, soyez bien attentifs, Jésus va commencer à enseigner cette nouvelle communauté-là, quel est son code de vie, comment est-ce qu'elle est appelée à vivre. Et vous allez voir que Jésus renverse des valeurs reçues dans la société. Qui est celui qui est grand? Qui est celui qui est heureux? Qui devrait craindre le malheur? Et vous allez voir que Jésus renverse pas mal de valeurs. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Alors, on va lire ce matin dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, des versets 17 à 49. Et je vais vous lire la nouvelle édition Genève. Donc, Luc, chapitre 6, versets 17 à 49. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et il les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Car c'est ainsi que leurs pères traitèrent les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne le vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande.
Merci Stéphane. C'est impossible de comprendre le christianisme, c'est impossible de vivre la vie chrétienne comme il faut, sans saisir, sans comprendre que le chrétien vit sur la terre dans une perspective temporaire. Le chrétien vit sur la terre comme un pèlerin dans l'attente d'une de ces deux choses. Soit que Dieu vient me chercher puis je m'en vais à sa rencontre, j'entre dans la gloire avec lui, ou soit que Jésus-Christ revient et il établit sa justice. C'est impossible de comprendre et de vivre le christianisme si ça, c'est pas présent à mon esprit régulièrement. C'est pas possible non plus de comprendre la réponse chrétienne, par exemple, aux attentats horribles de Paris, sans avoir ça à l'esprit. Parce que pour le chrétien, lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer sur la terre, des choses aussi horribles que celles-là, comme le disait bien Scottie Smith, une perversion semblable de la religion, c'est impossible de bien comprendre la réponse chrétienne si on ne saisit pas que le chrétien est convaincu que très bientôt, soit il va aller retrouver son Père dans le ciel, soit Jésus-Christ va revenir et va exercer la justice sur la terre. En théologie, on appelle ça l'eschatologie, la doctrine de l'eschatologie. Eschaton, qui veut dire la fin. C'est impossible de vivre la vie chrétienne sans vivre à tous les jours avec cette doctrine de la fin des temps à l'esprit. Et on ne peut pas comprendre le passage de ce matin si on ne réalise pas que ce discours de Jésus est donné sur un fond eschatologique. C'est constamment présent dans le passage. Regardez bien ce que Jésus dit au verset 23. « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande sur la terre. » Non, dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Il y a une espèce d'attitude pour le chrétien où le chrétien va rire un peu des drames présents sur la terre, même s'il souffre réellement, va rire un peu de ce qui est en train de se passer parce que pour lui, tout ça, c'est l'espace d'une vapeur, c'est le moment d'un instant, avant soit de retourner auprès du Père, soit que Jésus-Christ revienne pour établir la justice. Et dans le passage de ce matin, Jésus donne un code de conduite à cette nouvelle communauté-là, une communauté de grâce qui va être appelée à vivre parfois avec l'approbation des gens autour d'eux, de la ville, de la communauté où ils sont, mais souvent comme des parias, souvent avec une attitude qui est contre-culturelle, souvent dans des gestes, des comportements qui vont être mis à l'écart. Ça vient avec la réalité de suivre quelqu'un qui a été crucifié. Tu sais, ton héros, il a été tellement bien compris à son époque qu'ils l'ont cloué à la croix. Ben, à quoi tu t'attends? Ben, c'est ça. Jésus l'a fait parce que lorsqu'il l'a fait, il avait en vue le royaume de Dieu dans tout son accomplissement. Il l'a initié et il avait en vue la réalisation complète du royaume de Dieu lorsqu'il allait revenir dans sa gloire. Amen. Et c'est comme ça que vous êtes appelés à vivre à tous les jours, en considérant le royaume de Dieu dans sa perspective complète. Ce matin, on va voir ensemble le code de vie de la communauté de Jésus. Et ce code-là, c'est l'humilité, l'amour inconditionnel pour tous les hommes, parce qu'on a en vue, parce qu'on a en vue que ce qui se passe sur la terre, c'est temporaire et bien, bien bref. Premièrement, le bonheur des uns, le malheur des autres. J'essaie de me garder vraiment en contact avec la culture, vraiment informé sur la culture et la définition du bonheur, la définition du succès. Jésus vient la bouleverser complètement dans ce passage-là. Prenez avec moi le texte, regardez avec moi dans le passage. Jésus commence avec une définition de ce que c'est être heureux. Dans ce cas-là, heureux, ça veut dire aussi être béni. Voici celui qui a la faveur de Dieu, voici celui qui a la bénédiction de Dieu, voici celui qui peut s'estimer heureux. Et Jésus commence en disant, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant. » Drôle de conception du bonheur. Et puis une des questions évidemment qui me venait à l'esprit, la première chose que j'ai faite quand j'étais en train de lire le passage, j'ai pris le temps comme naïvement de lire le texte, comme si je ne l'avais jamais lu, puis j'ai dit, « Attends un peu, là, est-ce que Jésus est en train de faire une glorification de la pauvreté? » Comme t'es pauvre, t'es pauvre comme c'est pas possible. Bang! Jésus t'aime, tu t'en vas au ciel, tout est correct. La recette pour aller au ciel, c'est devenir pauvre. Prends tous tes biens, donne-les, sois misérable jusqu'à la fin de ta vie. Boum! Dieu t'aime. Pleure. Tu sais, t'es en dépression chronique toute ta vie. C'est juste ça que Dieu voulait pour toi parce que c'est comme ça que tu vas aller au ciel. Dépressif chronique toute ta vie. On pourrait croire ça, hein? Mais ce serait vraiment le prendre hors de son contexte. Ce serait vraiment le prendre hors de son contexte. Même s'il y a quelque chose là, puis je vais essayer de le clarifier. On a un passage parallèle dans Matthieu, d'accord, qui nous éclaire dans l'évangile de Matthieu. Je ne pense pas que c'est le même discours exactement. Pour ceux qui ont un petit peu plus de connaissances, plus techniques, je ne pense pas que c'est exactement le même discours. Je crois en fait que Jésus a souvent enseigné à peu près la même chose, avec des nuances différentes dans différents contextes. Une espèce d'allusion un peu technique, là, mais quand même intéressante à remarquer. Le sermon sur la montagne, avec Jésus, ça se passe sur le top de la montagne. Ici, dans Luc, ça se passe en bas, dans la plaine. Les théologiens s'amusent à appeler ça le sermon dans la plaine parce qu'il descend. Le symbole de Moïse qui a reçu la loi de Dieu, qui descend vers le peuple de Dieu pour donner sa loi, est encore plus évident, plus fort dans ce passage-là, d'accord? Mais c'est juste pour dire que ça peut être des moments différents où le discours est donné. Pourtant, c'est quand même les mêmes notions qu'il est en train d'enseigner. Alors, Matthieu 5, verset 3 à 8, je vous lis très rapidement. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Pas simplement qu'ils ont faim d'un gros hamburger parce qu'ils n'ont rien à manger. Faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas la première fois dans l'évangile de Luc que Jésus parle des pauvres, parle des misérables, parle de ceux qui sont mal pris. Je ne sais pas si vous vous rappelez à quel moment Jésus en a parlé déjà. Un moment où il s'est révélé, lui, comme celui qui venait accomplir des prophéties dans l'Ancien Testament, un moment où Jésus est en visite dans une synagogue, et puis on vient lui apporter des textes de l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe. Tournez avec moi dans Luc 4, très, très rapidement. Jésus est dans cette synagogue, on lui apporte les rouleaux, hein, la Bible était sur des rouleaux avec du prophète Ésaïe, et puis Jésus cherche un endroit probablement que lui-même voulait lire à ce moment-là, et s'est tiré à la fois de Ésaïe 58, Ésaïe 61, deux extraits probablement. Et voici ce que Jésus a lu dans Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et cette pauvreté-là dont parlait Ésaïe, c'était premièrement la pauvreté d'un peuple qui est censé être le peuple de Dieu, mais qui s'est éloigné de Dieu. Qui pensent être riches parce qu'ils sont descendants d'Abraham, puis ils sont forts de leur religion, puis nous, on est religieux, on appartient à telle religion, donc on est riche devant Dieu, mais qui ne réalisent pas qu'en fait, leur religion, c'est une façade, c'est un sépulcre blanchi, comme va dire Jésus plus tard, c'est un tombeau qui, en réalité, si on ouvrait la vie, si on ouvrait la porte de ton cœur, si on entrait dans l'intimité de ta vie, ça sent le mort là-dedans. Ça sent pas la vie. Ça sent la mort d'une religiosité hypocrite et crasse qui ne porte pas les valeurs de Dieu. Et Jésus vient et il dit, « J'ai été envoyé, l'Esprit est sur moi, pour libérer un peuple qui est pauvre spirituellement. » Qui est pauvre spirituellement parce qu'il maltraite les pauvres au milieu de lui, parce qu'il ne connaît pas la miséricorde. Et donc, ce n'est pas totalement dissocié cette idée du pauvre. Parce que clairement, dans la suite, dans Luc 6, Jésus va dire « Malheur aux riches, toi qui, à cause de ta richesse, penses que tu n'as pas besoin de Dieu, toi qui es populaire, toi qui penses que tu es rendu parce que tout le monde dit « Ah, oh, wow, ça c'est quelqu'un qui a réussi sa vie, toi qui as le succès populaire, malheur à toi, parce qu'à cause de ça, il se peut très bien que tu passes à côté du royaume de Dieu. Tu réalises pas qu'en fait, tu es pauvre, misérable et nu. Tu réalises pas qu'en fait, tu n'as rien à offrir à Dieu lorsque tu vas te présenter devant lui. Tu ne réalises pas que tout ce sur quoi tu construis ta valeur, c'est de la paille qui va partir très rapidement avec le feu, qui va éprouver la vie de tes œuvres. Malheur à toi, mais heureux celui qui réalise sa pauvreté profonde. Revenez avec moi dans Luc 6. Au centre de cette première portion-là du discours où il parle de ceux qui sont heureux et de ceux qui sont malheureux, sa personne, Jésus, est au centre. C'est super important. Comprendre de qui il parle ici lorsqu'il parle des heureux et des malheureux, c'est intimement lié à Jésus-Christ. Verset 22. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. » Parce que vous êtes colons? Non. Lorsqu'on vous chassera, on vous outragera, on vous rejettera, on rejettera votre nom comme infâme. On va cracher sur votre nom, on va vous haïr, vous détester. Pas parce que vous êtes détestable. À cause du Fils de l'homme, réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est ainsi qu'on traitait. C'est ainsi qu'on traitait leur père, les prophètes. Et donc, c'est vrai que lorsque tu décides de suivre Jésus, de reconnaître en lui le Messie, de reconnaître ce Dieu merveilleux qui est venu mourir sur la croix, se donner pour nos péchés dans la personne de son Fils, bien, ça se peut que tu deviennes un paria du jour au lendemain. Ça se peut que dans une société de bien-pensants comme la nôtre, où tout ça c'est fait pour les simples d'esprit, pour les nonos qui croient encore qu'il y a un Dieu créateur qui a pu créer l'univers, qui disent « Non, moi, ce que je veux croire, c'est qu'il n'y a rien derrière tout ça. On est juste un hasard. Nous ne sommes que des rats sur la terre qui vivons et mourront. Ben, » dans ce cas-là, pourquoi souterrer que quelques individus aient commis des crimes? Le mal, le bien, ça n'existe pas. C'est des vues de l'esprit, tout ça. On n'est que le fruit du hasard. On construit, on conçoit, on définit le bien, le mal comme on le veut. Il n'y a pas de bien, de mal absolu. Il n'y a pas raison de se choquer de ça. Chacun fait ce qu'il veut comme bon lui semble. Mais le jour où tu dis « Non, 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 attends un petit peu, il y a un créateur derrière tout ça qui a designé ce monde-là, il y a quelque chose d'unique dans l'être humain, de beau, de fondamentalement beau, une créature incroyable, il y a un créateur qui est venu, qui s'est incarné, oui, c'est flyé, oui, c'est difficile à croire. C'est difficile de comprendre la vie, c'est difficile de croire que l'être humain est là avec toute son intelligence au milieu de l'univers, c'est difficile de comprendre. » Plein de belles choses qu'on fait, on va sacrifier. C'est difficile de croire en Dieu, j'en conviens. Mais le jour où tu décides de croire en ça, de croire en Jésus, de croire qu'il est venu, qu'il s'est incarné, qu'il a marché parmi les hommes, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts, bien là, mon ami, ça se peut que tu changes de camp. Ça se peut que ta cote de popularité descende là. Puis ça se peut que tu deviennes un peu un paria dans le milieu, au milieu de tes amis. Mais Jésus dit, heureux. Réjouis-toi dans ton cœur. Pas parce que tu es un bigot de religieux qui passe son temps à juger tout le monde, juste parce que humblement, tu suis Jésus puis tu sais que tu es pécheur. puis tu sais que le péché existe, puis tu sais qu'on a besoin de se repentir, puis tu as mesuré ta pauvreté spirituelle devant Dieu. Tu réalises que ce monde-là a besoin d'une véritable justice. Quand tu regardes des choses comme ce qui se passe à Paris, ce qui s'est passé là, tu soupires dans ton cœur après une justice d'en haut, pas une vengeance, une justice. Et tu sais qu'au jour de la justice de Dieu, toi aussi tu te présenteras devant Dieu. Ce n'est pas comme un propre juste qui est en train de mépriser tout le monde que tu es en train d'attendre ça. Tu dis non, un jour tous les hommes comparaîtront devant Dieu. J'attends la justice de Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi Seigneur, parce que je suis vraiment pas meilleur que ce soit sur la terre. Et t'apprends à vivre comme ça. Heureux sois-tu au milieu des drames sur la terre. Heureux sois-tu lorsqu'on va te mépriser. Heureux sois-tu lorsqu'on va dire t'es un tata parce que tu crois dans une affaire de rétrograde qui a pas de bon sens, qui est complètement dépassée. C'est ça qui détruit l'humanité, de croire en Jésus. Ben oui. Ben oui. Jésus était très, très violent et agressif. Hein? Et donc, c'est ça qui est l'arrière-plan, voyez-vous. Et ceux qui courent après le succès de notre société devraient craindre. Lorsque Jésus dit dans le passage « malheur », en français, ça peut sonner comme une espèce de jugement. C'est « malheur à vous ». Ce n'est pas ça qu'il y a dans le texte en réalité, c'est une complainte. Ce sont des larmes, c'est une détresse, une inquiétude. Malheur à toi si tu fais ça, parce que c'est le malheur qui t'attend, parce qu'un jour Dieu viendra, exercera la justice. Si aujourd'hui tu es confortable dans ta richesse, pensez, un petit peu plus loin on va le voir dans l'évangile de Luc, à cette histoire que Jésus raconte avec Lazare et le mauvais riche. Il y avait un homme qui était pauvre, qui s'appelait Lazare, qui aurait voulu simplement manger les miettes qui tombaient de la table du riche, mais le riche vivait grassement sa vie, centré sur lui-même, profitait de la vie, menait grande vie, était populaire, tout allait bien dans sa vie. Lorsqu'il meurt, Lazare, qui, c'est sous-entendu dans le texte, craignait Dieu, se retrouve auprès de Dieu. Et le riche, qui a vécu comme si la vie ne comptait que sur cette vie, avait tout devant lui, bien voici ce qu'il lui est dit. « T'as joui de ta vie ?» Maintenant, jouis de l'éternité selon la justice de Dieu. Et c'est ce riche-là à qui Jésus est en train de s'adresser ici. Jésus n'en est pas fondamentalement contre la richesse. Il y avait des gens qui étaient des disciples de Jésus. Il y avait entre autres des femmes très riches qui supportaient son ministère. Il y avait des gens qui donnaient pour l'aider. Jésus allait de ville en ville, il était accueilli chez des gens, puis il invitait du monde à un banquet, puis les gens entendaient Jésus enseigner. Mais la valeur de ces individus-là, ces gens-là comprenaient que leur valeur fondamentale ne reposait pas dans ce qui frappe les yeux. Leur valeur profonde reposait dans leur crainte de Dieu, dans leur amour pour Dieu. Et c'est là que ça se trouvait. Et donc Jésus est en train de dire, il veut vous mettre en garde. Vous êtes en Occident, les amis. Vous êtes en Occident, vous êtes jeune, vous êtes aux études, tout est possible, l'entrepreneuriat, on va réussir, une carrière, je vais réussir, je vais m'installer, je vais vivre plus longtemps. Il y a de plus en plus de recherches qui se font pour s'assurer au moins qu'on va ajouter une décennie ou deux à nos vies. Je crois qu'on va voir ça de notre vivant, je crois qu'on va continuer à étendre la longévité. Si le Seigneur ne revient pas, on va continuer à étendre la longévité des hommes. Il y a un piège pour nous dans ça. L'éternité, ça se passe sur la terre. Right here, right now. Je suis populaire, je suis admiré, je dérange pas trop le monde, je rentre dans la notion de succès et je m'installe ici. Malheur à toi. Malheur à toi, parce que ce que Dieu t'a donné comme richesse, comme talent, c'est pour le servir. C'est pour aller vers le pauvre et dire « voici, je veux t'aider ». C'est pour élever les gens autour de toi, c'est pour traiter sagement tes employés, c'est pour être généreux, c'est pour aider à accueillir les gens de l'extérieur. Si les riches font ça, ils sont riches en Dieu. Ils sont riches en Dieu. Quand ta richesse, c'est Christ, tu seras riche de cette communion-là pour l'éternité. Que tu sois pauvre aujourd'hui ou que tu sois riche. Quand ta richesse, c'est ton succès social. Quand ta richesse, ce sont tes biens matériels, t'es pauvre comme Job, mon ami. Tu es pauvre comme Job. Il n'y a pas plus pauvre que toi dans cette société-là. Parce que ta richesse est probablement ton plus grand obstacle à entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, dans cette communauté-là de grâce, ce qu'on considère comme le succès, ce qu'on considère comme béni de Dieu, ce n'est pas ce que le monde va considérer en général. C'est premièrement, qui est Christ pour moi? Est-ce que je mesure ma pauvreté spirituelle et mon besoin de Christ? Et qu'est-ce que je fais avec tout ce que Dieu me donne? Est-ce que je m'en sers pour prendre soin et bénir autour de moi? Ou est-ce que je m'en sers pour me conforter dans une fausse sécurité et je m'en sers pour monter ma cote de popularité? Et dans cette communauté de grâce-là, si Jésus est en train d'attaquer un problème profond d'hypocrisie qu'il y avait chez les religieux en Israël qui s'appuyaient sur le fait qu'ils étaient descendants d'Abraham, il ne suffira pas d'aller de porte en porte sur les places publiques, puis de crier « Jésus », puis manger des tomates d'en face, puis juste écœurer tout le monde avec « Jésus », mais avoir une vie qui n'est pas conséquente avec ça. Parce qu'on revient à la même place, vous voyez? Ma vie, c'est n'importe quoi, mais j'ai un message, j'écœure tout le monde, puis plus le monde m'haïsse, plus je suis convaincu que « Wouh, je suis un disciple de Christ ». Il ne suffit pas seulement de croire en Jésus, de dire le nom de Jésus partout où on va. Il faut encore s'appliquer au quotidien et lui ressembler. Et c'est ça la suite de son discours. C'est ça qui se passe après à partir du verset 27. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez. » Et là, Jésus va amener l'intégrité à un niveau qu'on n'a connu nulle part ailleurs. Cette compréhension-là de l'amour, vous ne la trouverez pas ailleurs que dans les enseignements de Jésus. Jamais explicitement comme ça dans l'Ancien Testament, jamais ailleurs que dans les Écritures. 1 Corinthiens 13, si vous connaissez 1 Corinthiens 13, vous dites « Waouh, ça c'est le texte qui parle de l'amour. » 1 Corinthiens 13, c'est de la petite bière à côté de ça. Ça, c'est la définition de l'amour. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. J'étais vraiment troublé vendredi soir lorsque les attentats ont éclaté et que j'avais passé la semaine à méditer sur ça. J'étais vraiment troublé, je peux vous l'assurer. Mais avant de répondre à ça, verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Dans cette communauté, ce peuple nouveau que Jésus a formé en établissant son Église et qu'il forme depuis 2000 ans, dans cette communauté-là, chaque personne applique son cœur à ressembler à Dieu. Et lorsqu'on pense aux relations interpersonnelles, le mot qui résume tout, c'est la miséricorde. Dieu t'aime. Moi, je dis que c'est une preuve suffisante pour que tu comprennes que Dieu est miséricordieux. Si tu ne catches pas ce que je dis là, tu ne sais pas c'est quoi le péché, puis tu n'as aucune idée de qui tu es. Mais Dieu t'aime. Je t'assure que ce n'est pas sur la base de tes mérites. Dieu m'aime. C'est comme une farce, vous comprenez? Quand je veux remesurer encore une fois la grandeur de la grâce de Dieu, je me regarde dans le miroir puis je dis « Quoi? Tu m'aimes? Seigneur? » C'est pas à moi que je parle quand je dis « Seigneur », vous comprenez? Et donc, si vous estimez être chrétien, si vous voulez apprendre à marcher comme des chrétiens, ce qui doit caractériser tous vos rapports humains, c'est la miséricorde. Jésus va devenir super concret ici, mais c'est la miséricorde. Vous êtes appelé à être miséricordieux, vous êtes appelé à faire grâce, vous êtes appelé à compter toujours moins les fautes et aimer toujours plus, à passer par-dessus les offenses pour aimer davantage. Et c'est pas un langage, c'est pas un beau discours, c'est super concret. Malheureusement, ici, le français ne rend pas tout à fait bien la traduction quand il dit « présenter la joue pour recevoir une autre claque ». C'est pas exactement ça qu'il y a dans l'hébreu. C'est un coup de poing sur la mâchoire. C'est un coup de poing sur la mâchoire. Je me pratique à faire ça pour savoir c'est où que tu dois frapper pour que le gars s'étende au premier coup de poing. Si tu le places bien, au premier il s'étend. Je pourrais probablement jamais le mettre en pratique, malheureusement, vraiment, mais vous savez que j'aime le karaté. Donc, lorsque Jésus est en train de dire d'aimer vos ennemis, c'est d'aimer profondément dans mon cœur la personne qui me fait violence. C'est pas rationnel, c'est pas logique, c'est pas quelque chose qui vient naturellement à l'être humain. Tout en nous réclame la justice et c'est correct qu'on réclame la justice. C'est bien qu'on réclame la justice. Vous voulez savoir comment un chrétien prie lorsqu'il est en train de prier devant ce qui s'est passé là-bas? Psaume 37. Psaume 37, 7 à 10. Romains 12, 14 à 21. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Maintenant, écoutez bien ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Et oui, il y a tout à fait une place pour que le chrétien prie pour que l'État joue son rôle. Ailleurs, l'apôtre Paul va dire que le gouvernement, c'est l'épée de Dieu pour exercer la justice. Ce n'est pas une espèce d'amour à l'eau de rose qui dit « je ne vois plus le mal auquel on est appelé ». Je vois le mal, j'en suis profondément bouleversé, choqué. Si c'est à ma portée d'exercer la justice, j'ai juste envie de le faire, d'aller exercer la justice moi-même. Mais j'apprends à remettre cette justice-là entre les mains de Dieu parce que je vis dans un monde temporaire. N'oubliez pas le fond eschatologique. Eschaton, la fin des temps. Je vis temporairement sur la terre. J'ai cette conviction profonde qu'un jour la justice va venir. Cette justice-là, si ce n'était de ce que Christ a fait pour moi, me ferait trembler à chaque instant. Parce que je sais que devant cette justice-là, je suis meilleur que personne. Et donc, j'apprends à remettre à Dieu la justice, à remettre à Dieu la vengeance, à prier pour que Dieu envoie les autorités pour qu'ils fassent justice, qu'ils interviennent, qu'ils rétablissent l'ordre, qu'ils protègent le malheureux, le faible, celui qui est abusé. Amen! Et mon rôle à moi comme chrétien, c'est d'aller vers le méchant et avoir pitié de lui. Avoir de la compassion parce que je connais sa fin. On est ici au Québec, puis Paris, ça peut sembler très, très loin. Mais les terroristes sont peut-être dans ta maison. C'est peut-être ton époux. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui vont se faire exploser. Je parle de ceux qui te font du mal. C'est peut-être ton époux, c'est peut-être ton épouse, c'est peut-être tes enfants, c'est peut-être ton voisin. C'est peut-être pas toujours intentionnel, mais il y a cette espèce d'indifférence, cette espèce de méchanceté qui revient quotidiennement comme une espèce de torture chinoise, cette goutte qui revient incessante, qui fait que tu réclames la justice dans ton cœur, ça brûle à l'intérieur. Mais quand est-ce qu'il va se réveiller? En plus de ça, s'il est chrétien, c'est pire que pire. Il connaît la vérité, il connaît la parole de Dieu, il devrait changer, il devrait être en train de grandir. Non? C'est pas ça que vous vivez? Ça brûle à l'intérieur, un désir de justice. De ce temps-ci, ça m'a frappé. J'ai entendu beaucoup, beaucoup de gens. Comme je vous dis, je me tiens en contact avec la culture. Puis les gens non chrétiens qui disent, écoute, si tu veux réussir, il faut que tu t'entoures de gens qui t'amènent par en haut. Si ton contexte, ton environnement est malsain et que tu n'es pas valorisé, détache-toi de cet environnement-là. Sépare-toi d'eux autres. Ils ne vont pas t'élever. Il va falloir que tu t'éloignes d'eux pour t'entourer de gens qui t'élèvent. Hey, trouve ça ici. Trouve ça dans la vie de Jésus. Ben oui, Jésus est venu sur la terre pour s'entourer de gens qui allaient l'élever sur la croix. Sur la croix qu'ils l'ont élevé. Oui, Jésus est venu vers des gens qui allaient l'apprécier à sa juste valeur. Qui allaient dire, « Oh, wow, Jésus, t'es génial! » Qui allaient dire, « Hey, nous autres, on est tellement contents d'être avec toi, on va te suivre toujours. » À première occasion, sauve. Alors oui, c'est lourd. Oui, ça fait mal. Oui, c'est difficile d'aimer mon ennemi quand mon ennemi est dans ma maison. D'aimer mon ennemi quand c'est mon ami. D'aimer mon ennemi quand c'est mon frère, ma sœur à la maison, quand c'est un collègue de travail, quand c'est quelqu'un que je dois voir au quotidien qui agit injustement avec moi, puis ça fait mal, puis ça fait mal, puis ça fait mal. Puis tout en moi, humainement, normalement, même selon la justice, dit « Éloigne-toi de moi! » Vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas? Vous avez décidé de suivre celui qui est mort sur la croix ou non? Ça ne rend pas la chose facile au quotidien. Ça ne rend pas les choses plus simples. Mais dans votre cœur, il y a une décision qui est prise, oui ou non, de suivre Jésus. Après, je vais crier à Dieu, je vais pleurer, je vais le supplier de m'accorder la grâce d'avoir la force d'aimer mes ennemis. Cette semaine, aimez vos ennemis. Vous connaissez leurs noms. On fait circuler des bouts de papier. Vous avez plein de noms à écrire. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui pratiquent la torture chinoise dans votre vie. Une goutte à la fois qui vous détruisent. Aimez-les concrètement, pas juste dans votre cœur. Embrassez-les. Allez vers eux. Faites-leur du bien. Afin de ressembler un peu plus à votre bon Papa Céleste. Afin de suivre un petit peu plus Jésus. Puis dans la dernière partie, tout ce que Jésus fait. Vous savez, lorsque je regarde quelqu'un, puis je considère qu'il me fait du mal, c'est que je prends le temps de déposer un jugement sur cette personne-là. Souvent, j'ai raison. En tout cas, dans mon cas, moi, souvent, j'ai raison. Mais ce que Jésus fait dans la dernière portion du passage, il dit « Voici comment on aime dans ma communauté. » On aime nos ennemis, mais cet amour-là est défini par l'humilité. Parce que si on vit en communauté, il va falloir que je puisse aller vous voir, que vous puissiez venir me voir, qu'on puisse se dire des fois les vraies affaires avec amour, puis que vous puissiez me dire « Yannick, ça m'inquiète de te voir aller, je pense que tu es dans les patates, mon homme. » Chérie, je pense que tu erres complètement. Je pense que le diable t'a endormi. Tu es en train de te faire emporter dans des péchés. Il faut que je puisse aller voir mes enfants puis leur dire, écoute, réveille. Réveille, la vie est courte. Tu penses que tu as toute la vie devant toi. Tu ne sais pas, c'est peut-être terminé demain matin. Et donc, il va falloir que je puisse ouvrir la bouche. Il va falloir que je puisse annoncer le royaume. Il va falloir que je puisse annoncer la justice de Dieu. Il va falloir que je parle de péché. Il va falloir que je parle aux gens de leurs péchés. Il va falloir que je puisse dire ces choses-là. Mais l'amour dans la communauté de grâce de Jésus est caractérisé par l'humilité. Celui qui enseigne, celui qui reprend, et vous êtes tous appelés à le faire si vous êtes chrétien. Arrêtez, s'il vous plaît, de laisser ça entre les mains de ceux qui sont en avant. Tu sais, les curés comme moi là, qui ont un petit trou au-dessus de la tête. C'est pas ça que les Écritures enseignent. Vous êtes tous appelés à le faire. Mais celui qui va pour enseigner son frère, sa sœur, pour le reprendre, pour aimer son ennemi, va devoir le faire avec humilité. Je trouve la miséricorde dans mon cœur pour aimer mon ennemi, pour aller reprendre quelqu'un avec douceur et avec grâce, quand je prends le temps de mesurer ma condition devant Dieu sans Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que je réalise que la petite paille que je veux aller enlever dans son œil n'est probablement pas tout à fait nette parce que j'ai une poutre grosse comme ça dans le mien. Et cette humilité-là, je la trouve au pied de la croix. Dieu m'a donné toutes les ressources, tous les outils pour trouver cette humilité-là qui va me permettre à la fois de ne pas condamner, mais de voir clairement quelqu'un vers qui je peux aller. Parce que Jésus ne dit pas « tu ne vas pas reprendre », ce n'est pas ça qu'il fait. Bon, Jésus ne parle pas de la croix encore, il va en parler bientôt. D'accord, ça s'en vient, on n'est pas rendu là, on est au début de l'Évangile. Mais c'est à la croix que tu vas trouver l'humilité pour voir, dans le fond, j'ai bien aimé comment c'est enseigné dans un des cours de counseling. Ça m'était rappelé par quelqu'un dernièrement. Je vais intervenir pour aller reprendre une personne lorsque je vais réaliser qu'en réalité, je suis pareil comme elle. Que ce que je voudrais adresser dans sa vie, peut-être ça s'exprime d'une manière différente, mais c'est aussi présent dans la mienne. Je vais aller adresser ça premièrement avec Dieu dans la prière. Et là, je vais trouver un regard qui est complètement différent. Je vais être capable d'approcher, même si je devais encore être rejeté. Je vais être capable d'ouvrir la bouche, même si je devais être incompris. Et je n'arriverai pas de haut, prétentieux, gros gens comme devant. Je m'en viens t'expliquer ce qui ne va pas dans ta vie, copain. Mais humblement, avec l'âme, dans mon cœur au moins, je m'en viens lui demander la permission d'adresser quelque chose dans sa vie. Allez avec moi à la fin du passage complètement. Pourquoi m'appelez-vous, verset 46, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Dans la communauté de grâce que Jésus est en train d'établir, ceux qui se disent chrétiens ont de l'air des chrétiens. Ils ont de l'air des chrétiens sur la place publique, ça les rend des fois très impopulaires, parce que les gens savent que c'est les Jesus freaks, attardé mental, qui croit dans des affaires qui ne sont plus à la mode. Ils l'assument. Ils ont de l'air des chrétiens à la maison. Ils ont de l'air des chrétiens dans l'intimité de leur foyer. Ils ont de l'air des chrétiens dans leur relation de couple. Et ils sont conscients, profondément conscients, de tous les aspects de leur vie où ils n'ont pas vraiment de l'air des chrétiens. Parce qu'ils sont pauvres spirituellement. Ils ont besoin que Christ les transforme. Et aujourd'hui, à une époque où on a une perversion de la religion qui se propage dans le monde, comme on le voit, où à coup de violence, on va essayer de démontrer que le monde va mal, à coup de violence, on va forcer des gens dans des pays d'Afrique à s'enrôler dans une religion, à devenir des esclaves sexuels. Aujourd'hui, où la réponse d'une société de plus en plus séculière veut dire « Donc, croire en Dieu, c'est mal, voilà ce que ça donne. » Aujourd'hui, plus que jamais, les gens autour de vous ont besoin de voir que vous êtes heureux, même s'ils vous méprisent, que vous êtes bon et humble, que vous aimez vos ennemis. Aujourd'hui, plus que jamais, la ville de Longueuil a besoin d'entrer en contact avec une communauté de grâce qui vit ça au quotidien. Ça devient notre manière de respirer. Parce que dans ce monde-là, tellement confus, ils ne comprendront pas c'est quoi connaître Dieu. Les gens autour de vous ont besoin que vous mettiez en pratique les paroles de Jésus. Vous allez être surpris. Combien de fois ils vont vous dire qu'ils vous admirent dans le fond? Des fois, ça va être une discussion de corridor. Des fois, ça va être autour d'un café. Des fois, ça va prendre quelques années. Mais qu'ils en viennent à croire ou non, dans leur cœur, profondément, il va y avoir une certaine admiration qui va s'installer. Et plusieurs d'entre eux vont venir vous demander, « OK, parle-moi-en de ton Jésus. » Je suis prêt maintenant parce que je ne comprends pas c'est quoi qui se passe dans le monde. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. Seigneur, un des grands privilèges de te connaître, c'est de comprendre où s'en va le monde quand il semble qu'il n'y a rien à comprendre. Un des grands privilèges de te connaître, Seigneur, c'est d'avoir encore un compas qui nous donne une direction, une boussole qui nous aide à lire les temps, à lire les actions des hommes, sans être complètement paniqué, Seigneur. Parce que nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons que tu es le Seigneur qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous croyons que tu es le Seigneur de l'univers. Nous croyons que tu es celui qui donne sa vie pour celui qui réalise qu'il est pauvre, pour le riche qui cesse de se confier dans ses richesses. Nous croyons que tu es celui qui revient bientôt, Seigneur, qui jugera les actions des hommes et les pensées des hommes, devant qui tout genou fléchira et reconnaîtra que tu es Seigneur. Ne tarde pas, Jésus. Ne tarde pas pour parler à nos cœurs, pour te révéler à nous. Aujourd'hui, Seigneur, sauve quelques personnes ici qui décideront de te suivre ce matin, Seigneur. Et reviens bientôt, Jésus. Amen.